Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris et à Rome, 4h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Nemo en Peace. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
L'Afrique se rappelle ce matin d'un pape engagé pour le continent.
François, qui s'était rendu dans 10 pays au cours de ses 12 années de pontificat, il est décédé ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. RFI est en édition spéciale ce matin. Dans un instant, nous sommes à Kinshasa puis à Yaoundé, où beaucoup ont eu une pensée pour le souverain pontife. Nombreux également sont ceux qui pensent à l'avenir et pourquoi pas un premier pape africain. Dans le reste du journal, ces tensions palpables à Doha, au Qatar, où des délégations congolaises et de la FCM23 discutent toujours dans l'optique d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Et puis au Soudan, tout semble indiquer qu'une confrontation est imminente à Niala, capitale du Darfour du Sud. Les FSR y renforcent leur position, creusent des tranchées et posent des mines, alors qu'une brigade militaire de l'armée prend la direction de la deuxième ville la plus peuplée du pays. Le pape François est donc décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Lui, qui avait effectué 5 déplacements sur le continent africain, se rendant dans 10 pays différents. Un continent que le souverain pontife évoquait régulièrement. Son dernier passage daté de 2023. Il s'était rendu au Soudan du Sud, mais aussi en République démocratique du Congo, pays qui compte près de 45 millions de catholiques. Pauline Azidi, notre correspondante permanente, a promené son micro dans les rues de Kinshasa, où beaucoup ont eu une pensée pour lui.
À Kinshasa, ce lundi de Pâques n'était pas férié. Comme beaucoup de fidèles quinois, Florence a donc dû attendre la fin du travail pour venir pleurer le pape François.
En tout cas, il représentait pour moi comme un père, plus que le père biologique. Il nous a donné vraiment l'espoir pour le Congo. Il a tout prêché pour les 5 doigts, qui témoignait tout ce que nous faisions ici au Congo. En tout cas, il a contribué beaucoup pour nous, les Congolais. Il avait vraiment cet amour-là de notre pays Congo.
Alain, lui, n'est pas catholique, mais la mort d'une figure telle que celle du pape ne le laisse pas indifférent.
Nous, on est des Africains. Hein? Nous, chez nous, quand quelqu'un est mort comme ça, il faut compatir, quoi. Donc, ça nous a fait du mal, quoi. Mais c'est une autorité ecclésiastique, quoi. Donc, tout le monde l'estimait, hein? Donc, je peux dire ça.
Jonathan travaille à la Conférence épiscopale du Congo. Il garde en souvenir le passage du pape François il y a 2 ans à Kinshasa et ses messages sur la situation dans le pays.
On a compris que le pape se soucie aussi de notre situation, surtout les Congolais qui se retrouvent en ce moment à l'Est, là, qui passent dans des mauvaises conditions de vie suite à la guerre. Et nous, on préférait plus les différentes interventions du pape concernant le Congo et concernant la situation se trouvant à l'Est en ce moment.
Jonathan espère que son successeur sera lui aussi un allié du Congo, peut-être même un pape africain. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et à peine François décédé que se pose déjà la question de l'après et de multiples interrogations. L'une d'entre elles, le prochain pape peut-il être le premier africain? Ils sont nombreux sur le continent à l'espérer. En tout cas, autre question soulevée, que doit faire le successeur de François de l'héritage de l'Argentin sur certains sujets jugés un peu trop progressistes? Reportage à Yaoundé de Polycarpe Samba.
Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, la question d'un pape africain après le décès du pape François, c'est une suite invité au débat et l'idée à ses partisans.
Si on peut avoir un pape noir, ça sera une très grande fierté pour nous.
Naturellement, ce serait un honneur et un plaisir d'avoir aussi un pape africain, puisqu'on n'en a jamais eu.
Pour l'abbé Aurélien Béat, il n'y a pas à focaliser sur la race, le message de l'Église étant universel.
Notre souhait, c'est d'avoir un Saint-Père, un pontife qui relie et qui continue la mission apostolique ici dans le monde et qu'il rassemble ses brebis, qu'il soit blanc ou noir. Pour nous, l'essentiel, c'est d'abord d'être un pasteur selon le cœur de Dieu.
Sur les idées progressistes que défendait le pape François, à l'exemple de la bénédiction des couples homosexuels, certains des fidèles suggèrent une mauvaise compréhension de la position du pape et postulent sur le principe du dynamisme de l'Église qu'il ne peut y avoir de retour en arrière.
Nous n'avons pas bien compris le pape. Le pape a voulu dire que chaque personne d'entre nous a une valeur devant Dieu, quelle qu'en soit sa faiblesse.
L'Église d'Afrique a été claire là-dessus. Et le pape a été clair dans sa prise de position. Il a dit il faut ouvrir une porte de conversion à ceux qui font un pas vers l'Église. Nous disons l'Église est dynamique, l'Église est en marche. Je pense que ce qui a déjà été traité par le passé ne peut que continuer.
Ce qui est certain, la fumée blanche sera particulièrement scrutée ici dans les prochains jours. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Et on le répète, depuis l'annonce de sa mort, François n'a cessé de dénoncer les conflits et les inégalités sociales. Il avait d'ailleurs, la veille de son décès, cité entre autres les violences en République démocratique du Congo, mais aussi au Soudan et au Soudan du Sud. Des conflits au cœur de ses préoccupations, Clotilde Hazard.
Dans un texte écrit il y a 3 semaines, le pape François exprime encore ses inquiétudes pour le Soudan du Sud, où il s'était rendu 2 ans plus tôt. Il y avait exhorté ses dirigeants à stabiliser le pays et juste après, en RDC, il avait dénoncé les ingérences étrangères.
Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles, au détriment des populations locales, et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent.
Dès le début et pendant tout son pontificat, François appelle aussi à la solidarité envers les migrants, comme dans son discours au Maroc en 2019.
Si tratta di un fenomeno.
Il s'agit d'un phénomène qui ne trouvera jamais de solution dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance à tous ceux qui aspirent à un légitime mieux-être pour eux-mêmes et pour leur famille.
En 2023, il qualifiait la Méditerranée de cimetière et dénonçait le rejet des migrants comme un péché grave, invoquant un devoir d'humanité et de civilisation.
Et une pluie de réactions depuis l'annonce de sa mort. L'Union africaine salue un avocat inébranlable de la paix. Le pape François a amplifié les voix de ceux qui n'en ont pas. Réagit le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf. Félix Tshisekedi, le président congolais, dit que François a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec les plus vulnérables et son appel incessant à la fraternité entre les peuples. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa a salué pour sa part la vision d'inclusion, d'égalité et de souci des autres. Par son humilité et sa profonde compassion pour les pauvres, ajoute le président kényan William Ruto, il a donné l'exemple d'un leadership au service des autres.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
En République démocratique du Congo et selon les informations de RFI, plusieurs arrêtés ministériels ont été signés par le ministre de l'Intérieur pour formaliser l'arrêt des activités du PPRD, le parti de Joseph Kabila, et cela sur tout le territoire. D'autres partis politiques pourraient être concernés par ce que les autorités congolaises qualifient de mesures préventives. Outre l'ancien président congolais, d'autres acteurs politiques seraient dans le collimateur de Kinshasa pour des complicités avec le Rwanda et le groupe armé AFC M23. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, d'ajouter qu'il y aura des procès, que les biens, avoirs et comptes bancaires de ces personnes seront saisis et qu'elles ne pourront pas quitter le pays pour le moment. Pendant ce temps, les discussions entre les deux camps se poursuivent à Doha sous la médiation du Qatar, où la tension monte. Plusieurs dossiers sensibles font freiner les avancées, Patient Ligodi.
Les délégations congolaises et celles de la FCM23 sont à Doha depuis près de 2 semaines. Les médiateurs ont demandé à chaque partie de poser un geste de bonne foi afin de créer un climat propice au dialogue. Le retrait du groupe armé de Wali Kale Centre est présenté par le Qatar et les États-Unis comme un premier signe d'ouverture. Selon les informations recueillies par RFI, Kinshasa a également répondu à cet appel en procédant à la libération d'au moins 5 personnes. Leur identité n'a pas été rendue publique. Problème, le mouvement armé ne reconnaît pas ces personnes comme appartenant à la liste qu'il avait transmise aux médiateurs. À cette divergence s'ajoutent d'autres points de crispation. L'usage par les officiels congolais du terme « groupe terroriste » pour désigner l'AFCM-23 continue de bloquer les discussions selon plusieurs sources diplomatiques. Autre élément de tension, les poursuites judiciaire annoncée contre l'ancien président Joseph Kabila. Le mouvement AFCM23 estime que cette affaire est contraire aux mesures de confiance censées faciliter les négociations. De son côté, l'entourage de Joseph Kabila n'a pas réagi à ce point précis, mais affirme que l'ancien président agit en homme de paix et qu'il poursuivra ses consultations dans la région, notamment avec des chefs d'État, afin de contribuer à une solution à la crise.
Les précisions de Patient Ligodi. Et puis au Soudan, plus de 30 morts et des dizaines de blessés selon un comité de résistance. Après après des tirs d'artillerie dimanche sur El Fasher, dernière capitale provinciale de la région du Darfour qui échappe aux paramilitaires du général Emmeti. Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, dit s'être entretenu avec le général Al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, et le numéro 2 des forces de soutien rapide qui se sont engagées, selon lui, à permettre un accès total pour acheminer l'aide humanitaire aux civils. L'armée qui se prépare pendant ce temps-là à combattre à Niala, capitale du Darfour du Sud. Objectif, desserrer l'étau autour d'El Fasher. Une brigade militaire en prend la direction. Niala, ville clé, carrefour d'échanges commerciaux, devenue la principale source d'armement des paramilitaires. Elle est par ailleurs en passe de devenir la base de leur gouvernement parallèle, Ouda Ibrahim.
Tout à Niala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l'armée et les paramilitaires. Selon des informations concordantes venant de l'intérieur de la ville, les forces de soutien rapide sont en train de fortifier leur position. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Niala, surtout autour de l'aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s'attendent au pire. Les renseignements militaires soudanais indiquent que l'aéroport de Niala est largement utilisé pour recevoir des armes et de mercenaires, mais aussi pour évacuer des blessés au gradé des FSR vers Dubaï. Soudan Tribune se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l'ONU, accuse Abu Dhabi d'avoir doté les FSR d'un système de défense anti-aérien moderne. Il s'agit, selon des experts militaires, du FK-2000 chinois. Information que des images satellites récentes confirment, le système est effectivement déployé près de l'aéroport de Niala, le plus important du Darfour. D'autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites, des radars puissants et un système de brouillage du signal de drone.
Ouda Ibrahim, à Niala, il est 6h42.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
Et dans ce second quart d'heure, on continue de parler de la mort du pape François et de la suite qui se prépare au Vatican avec notre invité, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, archevêque de Bangui, l'un de ceux qui désignera son successeur dans 2 semaines à Rome. Reportage également en Tunisie, du côté de Sfax, où les camps de migrants sont régulièrement démantelés, ce qui ne les décourage pas forcément dans leur ambition de rejoindre l'Europe, vous l'entendrez. Le dossier Afrique Éco à Madagascar, où les problèmes énergétiques deviennent une menace pour le pouvoir en place. Et puis on retrouve Maman comme tous les matins. Avant cela, place au sport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Avec d'abord du football, en Angleterre, la 33e journée de Premier League s'est refermée hier.
Avec la victoire de Nottingham Forest à Tottenham de buts à 1. Après 2 défaites, l'équipe surprise de la saison se relance et reprend la 3e place du championnat. Une Premier League que retrouveront la saison prochaine les clubs de Leeds et Burnley. Les deux équipes sont assurées de finir première ou deuxième de Championship, la deuxième division.
Hier, nous étions en Côte d'Ivoire pour parler surf, on parle tennis. Ce matin, un nouveau tournoi vient de débuter à Abidjan.
Un challenger ATP, le second après celui de la semaine dernière. Et un certain Benoît Paire est à nouveau l'une des attractions de l'événement. Descendu au-delà du 500e rang, l'ancien 18e mondial espère retrouver des sensations et engranger des points. Et si son niveau a dégringolé ces dernières années, le fantasque joueur français conserve une certaine popularité dans le monde du tennis, comme a pu le vérifier Molamine Savané.
Lors de son match perdu au premier tournoi, la grande partie du public était favorable à Benoît Paire. Ce challenger est une reprise pour le Français de 35 ans après 7 semaines de blessure.
Je suis très content d'être ici en Côte d'Ivoire. C'est la première fois pour moi. J'avais besoin de retrouver un peu la compétition, essayer de prendre du plaisir. C'est ce qui s'est passé sur le premier tournoi. Maintenant, c'est à moi de faire mieux sur le deuxième, essayer d'aller plus loin dans le tournoi et pourquoi pas gagner pour reprendre des points ATP et remonter un peu au classement.
Son premier point au classement international, Miko Kwame vient de le décrocher dans le double grâce à son succès avec Benoît Paire comme coéquipier. Le numéro 3 ivoirien de 21 ans.
C'est quelqu'un que j'ai regardé toute mon enfance, qui a joué les grands chelems, tous les grands tournois. C'est carrément une idole pour moi. Peu importe son classement aujourd'hui, ça reste Benoît Paire. C'était une expérience inimaginable. Et en plus de gagner avec lui en double mon premier point, franchement, c'était, je pense, le plus beau jour de ma vie.
Marie-Emmanuelle Nanou, jeune abidjanaise férue de tennis depuis l'enfance, ne manque aucun jour du tournoi. Surtout pas les matchs de Benoît Paire qu'elle suit même à l'entraînement.
Ah, ça fait vraiment plaisir de le voir jouer. J'espère qu'il va gagner et se qualifier pour la suite. Le but, c'est de faire une pancarte pour ce mardi. Pour lui dire qu'il a les supporters ici. Voilà. Allez, Benoît.
Entrée en lice de Benoît Paire ce mardi face à Ricardas Berankis, finaliste malheureux du premier tournoi ce dimanche. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Au Niger, Victor, c'est le retour de la lutte traditionnelle ce mardi avec le coup d'envoi de la 13e édition de la Coupe du Président.
16 participants et parmi eux, 15 qui tenteront de détrôner le grandissime favori, Issaka Issaka. À 35 ans, le Colosse est en lice pour un 8e titre, ce qui serait un record. Et c'est bien le favori selon le directeur technique national, Adam Soumana, qui annonce une compétition très relevée.
Nous allons nous retrouver avec des champions et nous pensons que les combats seront exceptionnel cette fois-ci au niveau du Maradi. Il y a de l'engouement autour de cette 13e édition, donc nous pensons que les combats seront rudes et que vraiment il y aura de l'ambiance. Issaka Issaka, il a toutes les chances pour retourner avec sa coupe. Il est en forme, c'est une sorte de revanche qu'il va reprendre cette fois-ci au niveau du Maradi, après sa défaite en finale à Adosso pour le sabre national.
Et cette Coupe du Président en lutte traditionnelle se tiendra, Nemo, jusqu'à jeudi.
Merci Victor Missistrano pour le Journal des Sports. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 22 avril 2025. Le Vatican doit annoncer aujourd'hui la date des obsèques du pape François, normalement dans les prochains jours. Les cardinaux se réunissent ce matin pour une première congrégation générale. Après l'annonce hier du décès de François, le chef de l'Église catholique, mort à l'âge de 88 ans d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, avait annoncé hier matin le Saint-Siège. La journée qui a suivi a été marquée par de nombreux hommages et rassemblements à travers toute la planète et des messes et des prières en la mémoire d'un souverain pontife dont on se souvient notamment des prises de position en faveur des plus pauvres, des migrants, de la défense de l'environnement ou des homosexuels. Plusieurs pays comme l'Espagne, l'Argentine, le pape était argentin d'ailleurs, ou le Timor oriental ont annoncé des jours de deuil national. La dépouille mortelle de François devrait être transférée vers la basilique Saint-Pierre à partir de demain mercredi pour être exposée aux fidèles. Radio France Internationale repasse en édition spéciale ce matin autour d'Andréan Mellard et de ses invités. Rendez-vous à partir de 7h temps universel, 6h temps universel. On en parlait, le pape François qui avait fait de l'immigration l'une de ses priorités. Pour le reportage du jour, nous sommes en Tunisie où les autorités misent sur les démantèlements de camps pour dissuader les migrants et pour éviter les problèmes avec les habitants. L'un des derniers exemples en date, à Sfax, début avril, dans l'est du pays, de nombreuses personnes issues d'Afrique subsaharienne ont ainsi fui dans les champs d'oliviers où ils se sont réinstallés et disent ne pas vouloir partir tant qu'elles n'auront pas tenté une traversée vers l'Europe. La stratégie tunisienne semble donc trouver ses limites. À El Amra, dans la région de Sfax, c'est un reportage de Lilia Blaise.
Dans le campement du kilomètre 22 à El Amra, plusieurs centaines de migrants sont installés dans des tentes de fortune. Quelques-unes sont un peu plus solides avec des structures en bois ou des bâches. Mais Nadine, 32 ans, camerounaise, doit dormir à la Belle Étoile à même le sol. Début avril, elle a dû fuir le campement où elle vivait. Il a été démantelé par les autorités.
Parce que là où j'étais d'abord, on a cassé là-bas. Je n'ai pas d'abri. Je dors sur les étoules. C'est pas facile pour nous. Bon, j'ai vu, il y a aussi des Noirs comme moi et je suis venue. Je sais qu'ils ne peuvent pas me jeter. Je me suis déjà déplacée comme ça plus de 4 fois. Plus de 4 fois. On vient, on casse, on nous renvoie, on nous jette, on nous tabasse. C'est pas facile. Dernièrement, même, je suis tombée. J'ai vraiment eu mal.
Pendant que certains jouent au foot, d'autres construisent leurs tentes, quelques-uns pris dans un espace qui sert de mosquée, un petit terrain à ciel ouvert dont les bases ont été délimitées avec des bouteilles plastiques remplies de sable. Doucouré Souleymane a 23 ans, il vient de la Côte d'Ivoire, il prépare un thé avec ses amis sur le son de Maître Gims. Il a fui le campement du kilomètre 24, détruit par les autorités.
Un matin, on était là, ils sont venus, ils ont donné des avertissements. Ils ont dit que non, nous devons quitter les lieux, mais on ne savait pas où aller. Donc on a demandé, ils disent que non, ils nous donnent 72 heures. Qu'après les 72 heures, bon, si on ne débarque pas des lieux, bon, ils vont venir. Après, ils sont venus, ils ont commencé à gâter les trucs, nous chasser, brûler nos trucs. On dormait au dehors pendant 3 jours, après on est venu se réfugier ici. Bon, comme ça va pas, la famille a essayé de nous envoyer quelque chose. On a pu construire une maison pour dormir là-dedans.
Souleymane dort avec 15 autres personnes sous une structure faite de briques et de brocs. Mais toutes ces épreuves ne le font pas renoncer pour autant.
Moi, je suis venu pour l'Italie. Et personne n'a payé mon transport pour arriver ici. Et c'est comment ma famille a souffert pour que j'arrive ici aujourd'hui. Donc c'est pas ça qui va faire que non, moi je vais me retourner là.
Plus loin dans les oliveraies, d'autres campements sont visibles à l'œil nu. Selon les estimations du gouvernement tunisien, il serait près de 20 000 migrants en situation irrégulière à vivre de la sorte. Lilia Blaise, El Amra, Sfax, RFI.
Un reportage que vous pouvez réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. On vous le disait, le président français Emmanuel Macron est en tournée dans l'océan Indien. Le chef de l'État doit notamment se rendre à Madagascar. Et parmi les thèmes principaux qui seront abordés avec les autorités de la Grande Île, il y a l'énergie, un secteur tant sinistré que le problème est devenu une menace politique pour le pouvoir, avec des délestages de plus de 8 heures par jour. Les défis de la compagnie publique Jirama sont énormes, notamment pour relancer les projets de barrages hydrauliques. Claire Fage pour le dossier Afrique Économie.
À Madagascar, il n'y a même plus assez de courant pour distribuer l'eau dans les bornes fontaines urbaines. Les manifestations se multiplient devant le siège de la compagnie publique d'électricité, la Jirama, une société qui absorbe 10% des revenus de l'État tant elle est mal gérée, observe Ketakanji Narafich, directrice exécutive de Publier ce que vous payez.
Les marchés publics et les contrats de production d'électricité sont souvent attribués via des procédures opaques. Je pense notamment au contrat léonin conclu entre la Jirama et les loueurs de groupes électrogènes qui font fonctionner la plupart de ces installations et qui les facturent souvent à des prix exorbitants. Les fournisseurs de combustible, tout comme les loueurs de groupes, ont tout intérêt à ce que la crise perdure. Il y a aussi la falsification des paramètres de facturation de la Jirama. Manque à gagner pour la compagnie elle-même.
Les barrages, même s'ils sont plus souvent à sec une partie de l'année, restent la piste principale pour augmenter l'accès des Malgaches au réseau. Il est un des plus faibles au monde. Mais en 20 ans, aucun projet majeur n'a pu voir le jour, souligne Ketakanji Narafich.
En 2004, ces barrages-là, notamment Voulbé et Saouf, étaient déjà inscrits dans les soi-disant priorités du gouvernement. Les raisons évoquées sont le retard dû à des problèmes de financement, de coordination et de gouvernance. Et je pense que c'est ce dernier point surtout qui prédomine, le manque de transparence dans les appels d'offres.
Le président Macron pourrait annoncer la relance du projet de barrage de Voulbé par la compagnie française EDF grâce à un prêt de l'Agence française de développement. Mais pour qu'il soit viable, il faudra que la Jirama soit en mesure de payer cette électricité, explique Lou Varinel. Elle représente la France dans le réseau francophone des régulateurs de l'énergie.
Quand vous financez un système de production, donc à savoir une centrale hydro ou une centrale photovoltaïque par exemple, vous allez avoir un bailleur, mais en fait, il y a un modèle économique qu'il faut répondre. Et là, Madagascar ne trouve pas encore le dessin, j'allais dire, financier et économique pour expliquer que, en fait, il y aura une rentabilité et que cette coopération ne sera pas que un projet qui va fonctionner pendant 5-6 ans et puis après qui va plus marcher parce que, justement, manque d'entretien, parce que les Malgaches n'auront pas su faire.
La réforme de la Jirama est donc un préalable au succès des projets énergétiques malgaches et elle est exigée par le Fonds monétaire international au lendemain d'une mission dans la Grande Île.
Un sujet signé Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. Une matinée spéciale encore ce matin sur RFI consacrée à la mort du pape François, décédé hier à l'âge de 88 ans. L'invité de la rédaction Afrique est Monseigneur Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Il fait partie des 135 cardinaux qui éliront le prochain pape dans 2 semaines à Rome. Il avait été créé cardinal en 2016 après justement la visite de François en Centrafrique. Alors redoute-t-il lors du prochain conclave des divisions entre cardinaux conservateurs et progressistes? Espère-t-il que les intérêts de l'Afrique seront défendus lors de ce conclave? Après la querelle dans l'Église catholique sur la bénédiction des couples homosexuels, notamment Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé s'il était de ceux qui pensent que l'Occident connaît une décadence morale.
Je pense que l'Occident a son parcours, qu'il ne me revient pas de juger, et l'Afrique a son parcours, et nous devons chacun, dans notre parcours, converger vers l'unique, ça veut dire Jésus-Christ qui est le Sauveur, mais il y a des dogmes pour nous aider dans notre cheminement vers le salut.
Certains disent qu'il y a un courant conservateur de plus en plus
plus influent au sein de l'Église catholique. Est-ce que vous pensez qu'il se manifestera lors de ce conclave?
Moi, je ne suis pas souvent pour ces divisions courants, conservateurs, progressistes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Église, nous avons des sensibilités, des manières de penser et autres. Il ne faut pas chercher à les opposer. Bien au contraire, tout cela contribue à l'évangélisation, à l'annonce de l'unique sauveur, ça veut dire Jésus-Christ. Alors donc, moi je pense que c'est de dehors qu'on arrive à cataloguer. Vous l'avez vu, pendant le synode, au mois d'octobre, on avait pronostiqué beaucoup de choses. Mais une fois qu'on rentre et qu'on se laisse éclairer par l'Esprit Saint, les choses changent, eh bien, l'Esprit guidera son Église.
Oui, mais tout de même, Monseigneur, les réformes du pape François ont provoqué une certaine hostilité dans les églises oui. d'Amérique du Nord et dans un certain nombre d'églises africaines. Est-ce que ces hostilités ne vont pas se manifester lors de l'élection de son successeur?
J'espère que non. Si nous nous retrouvons, c'est pour choisir celui qui aura le destin de l'Église universelle. C'est pas pour des intérêts régionaux, continentaux ou bien encore des intérêts personnels. On doit voir l'intérêt général, pour ne pas dire universel, c'est-à-dire l'intérêt de cette Église catholique.
Monseigneur Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui, l'un des invités de RFI ce matin, son entretien avec Christophe Boisbouvier à retrouver en intégralité dans une heure sur nos antennes ou sur notre site internet rfi1.fr. Je vous rappelle l'édition spéciale consacrée à la mort de François entre 8h et 10h, heure de Paris, avec Andréane Mélard. À 6h56 ici à Paris, la fin de cette demi-heure en compagnie de Maman et de son humeur. Et Maman au Gondwana, certains détails sont très importants en fin de phrase.
Oui, un très très démocratique république, mon ami, ne te fie jamais aux apparences. Et si tu le fais, tu te concoctes de sacrés déconvenus. Bah oui, lorsqu'on te présente quelqu'un à Gondwana, c'est une autre belle capitale, pour naviguer et éviter les incidents diplomatiques, t'as intérêt à tout écouter jusqu'au bout. Eh oui, dans les titres et fonctions des Gondwanais en haut de en haut, le plus important se niche toujours un bout de table à la 95e minute. Bah oui, on te dit par exemple que ce monsieur qui est à côté de toi est conseiller à la présidence. Alors toi, tu fais l'amour parce que toi, tu veux parler à un ministre et basta. T'as que faire de quelqu'un qui n'a même pas de bureau, hein. Puis, tu entends la fin de la présentation, patati, patata, avec rang de ministre. Oui, conseiller à la présidence, chargé de je ne sais quoi et d'autres choses, avec rang de ministre. Tu sais pas ce que ça implique concrètement, mais le « avec rang de ministre » là, bah ça suffit à te remettre dans le droit chemin. Hein. En très très démocratique république, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont plus que ce qu'ils paraissent. Beaucoup de gens qui ont dans leur carte de visite le bonus « avec rang de ». Ces trois petits mots changent toute la vie du gars qui en bénéficie. Hein. Si toi, tu ne le sais pas, ben lui, il sait. Hein. Il sait qu'il est avec rang de. Il a beau être rez-de-chaussée avec vous autres, eh ben, il a rang de celui qui est tout là-haut, au dernier étage. Tu sais, l'étage où il n'y a qu'un seul bureau, là où l'ascenseur de tout le monde ne va pas, là où il y a un garde armé et un agent de sécurité pas commode du tout. Avec rang 2, c'est pas n'importe quoi, mon ami, hein. D'abord, c'est à utilité interne. Ben oui, il y a des gens trop dangereux avec lesquels le président fondateur ne veut pas se fâcher, hein. Attention, c'est pas des adversaires politiques, hein. Ceux-là, notre leader bien-aimé sait comment les mater. Toi-même, tu le sais. Non, ceux à qui président fondateur donne le avec rang 2, c'est ses amis, ses alliés. Ils sont pas trop utiles ou indispensables, mais un peu quand même. Ils ont rendu des services et peuvent en rendre, mais comme l'autre leader bien-aimé ne peut pas leur donner un plus gros gâteau, il les calme avec le avec rang 2. En gros, on peut pas t'envoyer en haut, on te laisse en bas, mais avec rang 2. C'est-à-dire que, à part les honneurs, à part la galère de participer à tous les conseils des ministres, les conférences, les symposiums, forums, inaugurations, à part le titre, les privilèges, le prestige et tout ce qu'on voit, qui brille mais n'est pas or, eh ben, tout le reste, tout ce que le ministre a, bah, tu as ça aussi, mais surtout, on ne le dit pas trop fort. En très très démocratique république, les avec rang 2 sont plus nombreux que les grains de sable dans une dune. Ministre avec rang de ministre d'État, secrétaire général avec rang de ministre, directeur adjoint avec rang de directeur, chauffeur avec rang de chef de service, etc. Mais le plus fort, c'est quand même vice-président avec rang de président. À demain.
À demain, Maman. 6h59 ici à Paris. Merci à Ryan Bois à la réalisation, à Xavier Besson à la rédaction en chef de cette demi-heure. Il est l'heure pour moi de passer la main à Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Nemo et bonjour à tous. Un seul titre à la une de l'actualité. Évidemment, la mort du pape François hier. Les réactions sont toujours très nombreuses. La communauté catholique lui rend hommage avec de nombreuses messes célébrées à travers le monde. On en parle dans nos différents journaux et puis une nouvelle édition spéciale à suivre. À partir de 6h10, temps universel avec Andréane Mellard, l'ensemble de la rédaction de RFI se mobilise pour parler de l'héritage de ce pontificat qui s'achève et puis faire l'ébauche aussi de celui qui arrive. Je vous dis à tout de suite sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété pour les jeunes diplômés.
Demain,
châtiment corporel à l'école. Pourquoi les pratiques perdurent malgré les lois?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.